50, 60 ans.
Attends, 70, 80.
70, peut-être 80. Hein, voilà. C'est une seule chair. Donc on a, c'est un travail au long cours. Et s'il faut tout ce temps, c'est qu'il y a des étapes à franchir. Et il y a des étapes à franchir, à la fois bah, dès le mariage, dès les fiançailles, on a préparé cet engagement, mais en étant bien conscient qu'il nous faudra la vie pour le décliner et pour monter en intensité. Et la qualité du millésime de la première année n'est effectivement pas la même que celui de 50 ans. Et on le sait bien de manière viticole. Je travaille dans l'agricole, donc je sais que c'est des choses qui sont importantes et qu'il y a une bonification au fil des années. C'est ce qu'on a également évoqué sur l'évangile de Cana. Mais il faut aussi bien saisir les fondamentaux qui sont des conditions initiales de l'engagement, mais qui sont également des éléments à comprendre au fil des années. Et je peux vous assurer que d'expérience pour nous-mêmes, mais d'expérience de couple dans des situations extrêmement différentes, il y a des conditions parfois qui ne commencent à être respectées que 30 ans ou 40 ans après le mariage. Alors si jamais ça commence, ça veut dire qu'avant il y a eu quand même quelques petits problèmes. Et les petits problèmes souvent dans la vie de couple, ça veut dire que c'est souvent source de douleur et de souffrance. Et c'est Jésus là encore qui donne les conditions et qui rappelle les conditions. Il a rappelé la Genèse que notre vocation c'est d'être une seule chair. Mais pour être une seule chair, qu'est-ce qui est dit ? Tu quitteras ton père, il quittera ton père et ta mère pour s'attacher à sa femme, ça veut dire que pour s'attacher à notre époux, il faut avoir quitté. Et c'est pas, vous comprenez que la problématique, c'est pas tellement le quitter le logement de papa et maman. C'est s'être rendu libre par rapport à notre relation, par rapport à notre père et à notre mère. Et à la fois libre, enfin on va rentrer dans cette mesure de cette liberté. Et puis, pour s'attacher à sa femme et ne faire qu'une seule chair. Et donc toute la dimension de la sexualité qui est essentielle dans la vie conjugale. Et donc c'est les deux thèmes sur lesquels nous allons travailler cet après-midi. Et demain nous avancerons davantage sur la construction de notre projet conjugal qui, comme il a été dit, finalement c'est irréaliste si on n'accueille pas le don du Christ. On va donc essayer davantage demain matin d'avancer sur la pierre d'angle qui est le Christ dans le couple. Mais d'abord, mon amour, quitter son père et sa mère, Kazako.
Bon, quitter son père et sa mère, c'est un vaste programme. Mais d'abord, il faut en comprendre le sens. Ce que dit Jésus, c'est... Enfin, ce que dit la parole de Dieu et que reprend Jésus, il faut quitter pour s'attacher. C'est-à-dire que si je n'ai pas quitté, je ne peux pas m'attacher. Ça vaut pour tous les états de vie. On ne peut pas entendre l'appel du Seigneur si on n'a pas quitté. Le premier à avoir quitté, qui est célèbre dans la parole, c'est Abraham. Quitte ton pays, ta parenté, quitte la maison de ton père, quitte les terres que tu as, quitte, pour entendre où je t'emmènerai. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu ne lui dit pas, je vais t'emmener à tel endroit. Il lui dit, pars et je te montrerai.
Sur le chemin.
Donc c'est quand tu avanceras que tu réaliseras. Et c'est pareil pour la vie de couple. Si tu as choisi de t'épouser l'autre, tu as choisi de quitter pour partir dans une aventure où tu ne sais pas très bien où ça va vous mener. Mais je te montrerai où je t'emmène. Mais quitte. Et dans l'histoire, toute la parole de Dieu, il y a énormément de textes, on n'en a relevé que 3 ou 4, mais qui vont parler de ce quitter qui est fondamental. Abraham, quitte ton pays. Dans un psaume, psaume 44, que j'aime énormément, il y a une très belle phrase. Écoute, ma fille, et tends l'oreille. Tends l'oreille, c'est-à-dire que si on quitte, c'est parce qu'on a entendu le Seigneur qui nous appelle à quitter. Tends l'oreille. Quitte ton peuple et la maison de ton père, le roi sera séduit par ta beauté. C'est extraordinaire d'amour. Si tu acceptes de quitter, de mettre tes pas dans ceux du Seigneur, que tu entends l'appel au mariage comme un appel pour ta vie, que tu acceptes de mettre tes pas dans les miens, le roi sera séduit par ta beauté. Dieu le Père va fondre d'amour de voir cette réponse d'amour que tu fais. Donc, si tu quittes, c'est pour un plus grand amour. Et si tu quittes, c'est parce que le Seigneur t'appelle. Il y a aussi l'appel d'Élisée. Vous savez, quand Élie passe et qu'il jette son manteau, et Élisée dit à Élie, « Ok, je vais te suivre. Laisse-moi aller dire au revoir à mes parents. » Il va voir ses parents, il prend le bœuf qui lui servait pour travailler la terre, il le tue, il en fait un festin, il se sert du harnais pour cuisiner et faire chauffer la viande, il donne à ses parents, il leur dit adieu, il s'en va. C'est-à-dire qu'il va aller même détruire les liens matériels qui le retenaient à ses parents. Il part avec rien. Il tue le bœuf, il brûle le harnais et il part. Hein, donc c'est vraiment quitter, ça veut dire aussi que on va renoncer, on va s'arracher à quelque chose qui nous est familier. Donc ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. Et ce n'est pas simplement quand on le dit, on peut le dire avec des mots, ok je quitte mes parents, puis après on se rend compte que ben, on a un sacré élastique qui nous tire derrière. Lévi, bon, dans l'évangile évidemment il y a des appels de Jésus qui sont très beaux, suis-moi, dit Jésus à Lévi, et quittant tout, il se leva et se mit à le suivre. Il se leva, bien sûr, c'est le verbe de la résurrection, on est d'accord, il se leva, le Seigneur vous appelle pour un appel de vie, hein, c'est pas un appel de mort, c'est un appel de vie. Donc on se lève pour suivre Jésus et on se lève pour suivre son époux ou son épouse. Donc tout ce travail d'écoute de l'appel de Dieu se cristallise sur « j'ai entendu, je réponds, je quitte pour m'attacher ». C'est tellement important, on le verra tout à l'heure, que ça a des répercussions extrêmement fortes quand on n'a pas été jusqu'au bout de s'attacher. Et Alex donnait un exemple, on connaît un vieux monsieur qui a perdu sa maman à 70 ans et il nous disait « je commence à vivre libre ». C'est quand même dommage d'attendre 70 ans pour faire ça. Donc je vous souhaite de faire ce travail et c'est un travail qu'on refait tout le temps. Hein. Et nous, à 30 ans de mariage, on a encore des endroits où on se rend compte qu'on n'a pas vraiment quitté. Donc c'est un travail de longue haleine. Il y a des choses qui sont évidentes et puis il y a des choses qui sont plus subtiles sur lesquelles il faut travailler.
Alors, c'est aussi quelque chose qui est important. Ça, c'est le commentaire de la Genèse. Quitte ton père et ta mère. Mais Jésus va être encore plus exigeant. Il est très précis dans l'Évangile. Il est même, par certains côtés, choquant. Dans, justement, les relations à laquelle il invite les disciples, les chrétiens, par rapport à leur famille. Il dit à un moment, oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. À un autre moment, il dit, quelqu'un dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Il lui répond, le fils de l'homme, lui, ne sait pas où reposer la tête. Ça veut dire que c'est une vraie aventure, effectivement, de partir sur ce chemin avec le Christ. Et puis, il dit à un moment, certains, qu'il appelle, suis-moi, et il dit, mais laisse-moi enterrer mon père et ma mère, et il dit, laisse les morts enterrer les morts. Et à un moment, il dit une chose aussi très importante, c'est quiconque aura laissé frères et sœurs, mère, maison, champ à cause de moi, recevra au centuple. Donc ça veut dire que l'appel du Christ, effectivement, est exigeant et nous pousse véritablement à être libre, pas à rejeter, mais à être libre par rapport à nos liens du sang, par rapport à nos parents et par rapport à nos familles. Et c'est un point important. Rappelez-vous aussi cette parole où Jésus, à un moment, mais ta mère, tes frères t'attendent dehors. Qui sont mes frères? Qui est ma mère? Ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Ça veut dire que véritablement, nous sommes invités, véritablement, à devenir par rapport à notre famille génitrice, aussi bénie soit-elle, avec ses défauts, ses qualités, etc. Nous avons véritablement, parce que nous faisons alliance ensemble, nous avons véritablement à construire notre projet, devient premier par rapport à tout notre héritage, au sens global du terme, éducatif, culturel, bien sûr, aspect financier, etc., etc. Et à un moment, l'attachement, je m'attache. Donc ça veut dire que combien de conjoints, mais c'est très important d'appeler régulièrement, de prendre surtout soin de son frère, de sa sœur, de sa mère, de son père, peut-être parfois davantage que son propre mari ou sa propre épouse. Parce que finalement, comme on vit avec l'un, avec l'autre, bah, de toute façon, on est ensemble et puis tout va bien, etc., etc. Mais finalement, on est plus attentionné à notre famille qu'à notre propre conjoint. Ou alors, notre référence morale, spirituelle, idéologique, est davantage celui de notre famille que celui de notre époux ou de notre épouse. Et c'est vrai que ces questions-là, combien de fois, nous sommes rendus compte dans les situations très concrètes de blocage de couple, de division de couple, d'insatisfaction, d'incapacité de se donner l'un à l'autre pour un conjoint, de différentes manières, de se faire confiance, dans la sexualité, dans différents domaines, vient qu'à un moment, la liberté par rapport à papa-maman n'a pas été faite. Et ça, c'est un travail. Il est bien sûr important d'y penser dès le démarrage de la vie de couple, mais c'est toujours... Il faut toujours penser à cela. Est-ce que véritablement on a fait ce travail de libération? Je ne sais pas, je crois qu'on ne l'avait pas évoqué. Pour nos 25 ans de mariage, nous avons été faire une retraite pendant une semaine. Et je veux dire, ce type d'enseignement, on le donne depuis 20 ans. Donc je veux dire, quitter son père et sa mère, on connaît. Hein. On est assez pro hein, là-dedans. Hein. Bon. Et bien on s'est fait ramasser, mais comme des bleus. C'est-à-dire que, on fait notre retraite, on a déposé notre vie au Seigneur, etc. etc. Bon. A priori, on sait à peu près faire, quoi. Mais là, à un moment, on a vu quelque chose qui est venu mais comme un bouton au milieu de la figure, mais comme c'était hyper visible, sauf nous, bien sûr. Mais on l'a... Et là, il a fallu le déposer, il a fallu faire ce travail à la fois spirituel, et à la fois psychologique, à la fois intérieur, pour dire, Seigneur, je me rends compte que là, effectivement, j'étais pas libre par rapport à ça. Parce que derrière aussi quitter son père et sa mère, c'est bien sûr toute la question des pardons qu'on a donné ou qu'on n'a pas donné à notre père ou à notre mère. Et tant qu'on n'a pas pardonné, il n'y a pas plus attachant qu'un pardon qui n'est pas donné. Il n'y a pas plus handicapant qu'une blessure familiale qui n'est pas guérie. De ne pas avoir été été assez aimé, assez respecté, d'avoir été humilié, etc., etc. Si je ne guéris pas ça, qu'est-ce qui paye la facture? C'est celui qui est à côté. Et donc c'est pour cela, pour ne pas lui faire payer la facture pendant 30 ans ou 40 ans du fait que papa ou maman ne m'a pas aimé, ne m'a pas assez respecté, ne m'a pas ceci, ne m'a pas cela, mais je ne fais pas ce travail de guérison, et ben je vais dire, je paye la facture et je fais payer la facture à mon conjoint et à mes enfants. Je veux le bien de mon conjoint, je veux le bien de mes enfants. Alors attache-toi à la guérison de ta relation familiale dans son ensemble.
De la même façon qu'on a exprimé ce matin comme le Christ était le salut pour notre couple, il est aussi le salut par rapport à nos propres histoires familiales. Vous connaissez tous cette difficulté et les psychologues en parlent suffisamment. On a eu un grand-père violent, le fils est violent, le petit-fils est violent. Avec le Christ, on peut couper cette chaîne. On peut interrompre cette façon de réitérer les malédictions, entre guillemets, qu'on se traîne de génération en génération. Et on peut décider, pour le bien de nos enfants, un père et une mère, ça ne désire que le bonheur de ses enfants. Ça me semble logique. Si on veut rendre nos enfants heureux, libres d'être des adultes devant Dieu, capables de prendre leurs propres décisions, ça veut dire qu'il faut que moi, je coupe les liens qui me retiennent à mon passé, sinon je vais leur transmettre. Si j'ai toujours eu une mère angoissée, je vais ressentir l'angoisse, je vais transmettre l'angoisse, eh bien non, il faut dire non à ce diktat. Nous avons envie d'être des êtres libres et le Seigneur veut faire de nous des êtres libres. Donc ce travail de relecture que nous avons à faire de nos liens avec nos parents, il est indispensable. S'il y a une réaction anormale à quelque chose qui se passe dans notre couple et que tout d'un coup c'est disproportionné par rapport à l'événement, il y a de fortes chances qu'il y ait une blessure dessous. Alors soit vous dites, j'y peux rien, je suis comme ça, et là c'est dommage pour votre couple et c'est dommage pour vous-même en premier. Et vos enfants ils vont dire, maman, il ne faut pas lui parler de tel sujet, tout d'un coup, elle explose. C'est quand même triste. Si jamais vous mettez, vous creusez, Seigneur, maintenant éclaire-moi. Pourquoi cet événement déclenche-t-il tant de choses? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il se comporte comme ça, ça réactive des choses? Et si j'arrive à donner le pardon aux personnes qui ont causé cette blessure, si j'arrive à demander au Seigneur de m'en libérer, de m'en guérir, même si la guérison est lente et progressive, je vais acquérir une liberté extraordinaire et je vais préserver mes enfants de cette blessure et du système où on recommence et on recommence et on recommence. C'est ça le salut dans notre famille. Et le Seigneur nous demande de quitter pour s'attacher. Qu'est-ce que ça veut dire? En hébreu, s'attacher, ça veut dire s'appliquer à rester unis. Ça veut dire prendre sans arrêt toute l'énergie pour être ensemble à deux. Et je ne peux pas faire ça si j'ai des élastiques et des casseroles qui traînent derrière. Et si tout le temps mes parents me retirent. Alors les parents, comme Alex l'a très bien dit, ils peuvent nous retirer avec un élastique, soit par le positif, je vous aime tant, venez me voir, j'ai besoin de vous voir, vous êtes merveilleux, machin, et on finit par être dans un système où tout planique, où il faut être tous les dimanches chez papa, maman, etc. Donc ça, c'est une vraie difficulté à gérer. Soit c'est l'effet inverse. Ils m'ont tellement blessé, ils m'ont tellement rejeté, je ne veux plus les voir. D'accord, tu ne veux plus les voir. Mais si tu ne fais pas ce travail de pardon en toi, tu restes lié à cette blessure. Et tu es esclave de cette blessure. Et elle t'enferme, et elle te prédéfinit, et elle limite souvent ta masculinité, ta féminité, ta plénitude d'être est entravée par ça. Je pense que c'est important de prendre conscience que ces liens avec nos familles sont délicats, nous entravent dans notre marche, où, et ce n'est pas toujours négatif bien sûr, mais qu'il faut qu'on acquiert cette liberté intérieure pour, comme Ruth, être capable, c'est très beau cette histoire de Ruth, si vous avez le temps vous irez la relire, elle suit Boaz et quand Boaz décide de l'épouser, il lui dit « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Sois sans crainte, ce que tu me diras de faire, j'irai. » Quand dans un couple, on a trouvé cette certitude que le Seigneur nous veut ensemble, on est prêt, paraît-il, à aller au bout du monde avec cette personne. Combien de couples autour de nous se séparent parce que monsieur est muté à 50 km de chez papa-maman? Les mamas italiennes responsables de 2/3 des divorces en Italie, ils ont maintenant des cours obligatoires à la mairie quand elles marient leur fils. Mais on en rigole, mais c'est quand même drôlement grave. La belle-mère qui passe son temps à vous dire « tu l'habilles pas comme il faut, tu fais pas ci, tu devrais l'allaiter comme ça, tu machin. » Oh, merci belle-maman, on va en discuter tous les deux et on vous dira ce qu'on en pense. Laissez votre couple se construire. Et même si ça fait mal au départ de couper le cordon, c'est à vous de le couper. Et c'est toute la vie qu'il faut faire ce travail pour que nous-mêmes, nous ne mettions pas sur nos propres enfants ce lien qui va faire qu'ils ne pourront pas eux aussi devenir adultes.
C'est comme ça pour témoignage personnel, par rapport à Maud, par rapport à une blessure, par rapport d'enfance, difficulté. Les enfants, quand ils sont devenus adolescents et grands adolescents et jeunes, se sont rendus compte de la difficulté, de la blessure qu'avait eu Maud par rapport à sa famille, etc., et ses parents. Et ils ont dit, mais comment tu as fait pour travailler à cette guérison? Parce que nous savons que tu as travaillé cette guérison et tu ne nous as pas transmis la blessure qui t'avait été transmise par la famille. Donc vous voyez que nos enfants peuvent nommer et être conscient de ces guérisons. Mais qu'ils en soient conscients ou inconscients, ils remercient leurs parents d'avoir fait ce travail de guérison intérieure. Vous comprenez que si nous accueillons véritablement, si nous faisons fructifier le salut du Christ concrètement dans notre vie, on n'est pas dans des pieuseries là. On est vraiment dans l'accueil concret dans notre vie que Jésus est libérateur. Et que concrètement, c'est une bonne nouvelle pour notre vie personnelle, une bonne nouvelle pour notre vie conjugale, parce que du coup, il va y avoir une intensité plus importante qui est possible, parce que nos entraves sont libérées, et c'est une bénédiction pour nos enfants. Nous aimons beaucoup intervenir dans des milieux qui sont non-croyants en abordant ces questions-là. Pourquoi? Parce que même le plus païen des païens, il désire une chose profondément, c'est que ses enfants soient heureux. Et quand on lui parle de cette question, que le meilleur cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est que papa et maman s'aiment, Parce qu'un enfant, c'est le fruit de l'amour de papa et maman. Et si papa et maman se séparent, eh ben, c'est l'enfant qui se sépare en deux. Ça, tout le monde le comprend, il n'y a pas besoin d'être cadeau. C'est inscrit dans l'homme. Et que le meilleur cadeau que nous puissions faire à nos enfants, c'est que papa et maman s'aiment et que papa et maman soient libérés. Parce que si jamais on est libéré de nos entraves, alors à ce moment-là, on va donner les moyens à nos enfants d'être eux-mêmes libérés. Alors, qu'on leur dit, écoutez, même si jamais Jésus, vous n'en avez rien à faire, vos enfants, vous en avez quelque chose à faire. Pour vous, Jésus, c'est peut-être pas important, mais vos enfants, c'est important. Alors, accueillez Jésus pour qu'il soit libérateur dans votre vie, et ça sera libérateur pour la vie de vos enfants. Vous comprenez que, ça élargit un peu ce qu'on exprime, mais tout ce qu'on évoque ce matin, c'est pour nous, c'est pour vous, ce qu'on dit là. Mais vous comprenez comme c'est profondément évangélisateur. C'est profondément attractif pour notre monde. Parce que si on n'en a rien à faire de la foi chrétienne, aujourd'hui, la grande majorité des couples veulent réussir leur couple. Et ils savent que leur couple est en danger. Et ils n'ont pas les moyens. Comment réussir son couple ? C'est un problème général dans toutes les discussions. On va vous trouver lors de la Saint-Valentin, redonner du piment à votre couple, etc., etc. Et on va proposer la presse et le monde va proposer des ersatz. Alors que seule la foi donne le cœur du chemin de guérison et libération.
Alors le deuxième point qui est lié au premier, c'est quitter pour s'attacher et donc pour s'unir et ne faire qu'une seule chair. Donc c'est la question de la sexualité dont on a déjà parlé un peu ce matin. Sexualité comme la célébration même de notre amour. C'est très important chez les Juifs. On ne pouvait pas avoir une fête liturgique sans terminer par s'unir sexuellement à sa femme le soir. Ça faisait partie de la fête liturgique parce que c'était rendre gloire à Dieu. Bon, aujourd'hui évidemment on a perdu ce genre d'usage, mais on pourrait les retrouver. Rendre gloire à Dieu en célébrant notre amour. Si la sexualité a été bénie par le Seigneur et bénie par Dieu et voulue comme célébration de l'amour, elle est aussi porteuse de cette blessure dont nous avons parlé. Donc il y a en nous deux natures qui combattent, et ces deux natures, la nature bénie de l'origine et la nature déchue, vont faire qu'il y a un combat qui va se cristalliser dans la sexualité, et que la sexualité va être un peu comme le haut de l'iceberg dans un couple. C'est-à-dire qu'elle ramasse toute la vie. Et que c'est en fait, je dirais, le moment de la célébration qui va rassembler tout ce qui s'est passé dans la vie du couple. Comment s'unir quand on est dans la tension? Quand on s'est agressé ou qu'on s'est mis en colère l'un contre l'autre? Il va se passer la même chose que pour l'Eucharistie. Laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère. Pour la célébration liturgique de l'amour, allons d'abord nous réconcilier. Mettons des mots sur ce que nous avons vécu. Demandons-nous pardon et ensuite célébrons notre unité. Comment peut-on célébrer notre amour si dans la journée, nous n'avons rien eu comme attention l'un vis-à-vis de l'autre? Les femmes y sont souvent plus sensibles que les hommes. Tu ne m'as pas regardé de la journée et ce soir tu veux qu'on s'aime. Je dis écoute, excuse-moi mais... Non, ça ne peut pas marcher, quoi. Il y a un bug là. Donc, apprendre les gestes de tendresse toute la journée, se faire des gestes de tendresse. Les enfants, ils adorent ça. Ils se ferment les yeux en disant « Ah, les amoureux, on ne veut pas voir, mais ils veulent surtout voir. » Donc, papa et maman ont besoin d'exprimer des gestes de tendresse. Donc, toute la journée, se dire notre amour, apprendre à rentrer dans cette célébration de nos corps et de nos âmes. Et combien de fois les femmes disent tout le temps « Mais... tu me dis pas assez que tu m'aimes. Oh, je te répète toute la journée, je t'aime, je t'aime. » Mais ça veut dire qu'il faut le répéter aussi dans la vie. Donc se mettre au service. Et un peu comme Cyrano de Bergerac, brodez, monsieur, brodez. Eh bien oui, brodez votre je t'aime dans votre vie quotidienne. Ça veut dire, diluez-le, délayez-le, remplissez tous les instants de la vie par cet amour qui va faire que nous allons pouvoir célébrer la sexualité, célébrer notre amour dans ce une seule chair. Dans cette liturgie que le Seigneur nous donne de vivre. Alors, on ne peut pas parler de la sexualité sans parler aussi de tout ce qui est pornographie. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais je pense que c'est très, très important. Aujourd'hui, Le malin attaque là où c'est le plus beau, c'est-à-dire la sexualité. Comme disait le curé d'Ars, le malin, il se déplace pas, le grappin ne se déplace pas pour des choses qui n'ont pas d'importance. S'il attaque tellement fort la sexualité, c'est que c'est le lieu même où se vit la présence de Dieu quand on s'aime, quand un homme et une femme sont unis. Comment unir un homme et une femme? C'est la signature de Dieu, ce sont des contraires, pas besoin de psychologues pour savoir qu'il n'y a pas plus différent qu'un homme et une femme. Unir les contraires dans l'amour, ça c'est la signature de Dieu. Donc il y a un enjeu extraordinaire. Et donc si jamais Satan attaque là, il va pervertir. Et il va faire quoi? Alors tout ce qu'on voit comme images porno, 80% des pages, je crois, d'internet, c'est des images porno. 80% des pages. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Combien d'enfants, moi j'interviens dans les classes, en quatrième, en troisième, il se trouve plus un garçon qui a échappé au porno. Et une fille sur deux seulement. C'est impressionnant. Et ce porno, qu'est-ce qu'il est fait pour faire? Il est fait pour faire jaillir des images qui nous restent dans l'imaginaire parce qu'on n'arrive pas à les ranger dans les cases. Parce que comme c'est mélangé, la violence, l'amour, la pulsion, la répulsion, tout ça c'est mélangé dans l'image, du coup ça rentre pas dans nos cases et ça tourne dans la tête. Et après, quand on va avoir des gestes de tendresse avec son conjoint ou autre, ping, ça va reflasher comme ça. Et on n'arrivera pas à se le déscotcher. Heureusement, le Seigneur peut faire un travail dessus, et nos frères prêtres sont là pour l'attester. Les liens, on peut couper ces liens, on peut travailler sur la guérison de la mémoire, on peut sortir de là. Mais c'est important de dire que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Nous avons besoin de remplir nos yeux de la beauté de cette sexualité et de nous préserver de toutes ces choses qui abîment l'image de l'amour. Et ce qu'il y a de plus beau que le Seigneur nous ait donné de faire, c'est-à-dire de nous aimer jusque dans nos corps.
C'est pour ça que nous sommes dans une société qui est profondément érotisée, pour ne pas dire pornographiée, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, mais qui est indirectement une des preuves que vraiment, génétiquement, l'homme est fait pour l'amour. Mais comme il ne rencontre pas Dieu, il va aller essayer de compenser auprès d'une caricature de l'amour qui est la pornographie. Mais comme bien sûr la pornographie ne satisfait pas, on se dit, en fait j'ai pas été assez loin, donc je vais aller encore plus loin. Et donc c'est pour ça que la pornographie est une véritable drogue, et il y a aujourd'hui bien sûr il y a des services médicaux qui traitent des addictions, aussi bien des addictions à l'alcool, à la drogue ou au sexe. Donc on est dans une même mécanique. Et donc, c'est très important en tant que couple chrétien d'essayer de se remettre un peu des choses dans le bon ordre pour vivre justement cette ligne de crête sur cette vocation, cet appel à faire vraiment une seule chair dans notre couple. À la fois vivre cette grande intensité et à la fois vivre ce travail de purification et de conversion, absolument indispensable. Et c'est un danger, entre guillemets, un peu dans l'Église, après avoir toutes les vagues de jansénisme, etc., rejeter la sexualité, dire maintenant tout est bien, tout est rose et tout va bien, c'est qu'à de le dire. Et donc toute sexualité est bonne. Non, toute sexualité n'est pas bonne. Et notre propre sexualité conjugale, on doit travailler à sa conversion. Et donc il faudra faire tomber plusieurs petites choses. C'est le mensonge de la mythologie de la sexualité moderne qui est parfaite. Donc arrêtons effectivement les modes où on attend de notre homme qu'il soit un Apollon et notre femme un mannequin, etc. Et donc le terrorisme des images qui nous sont renvoyées, je dirais, par les médias, faisons très attention à cela. Surtout que l'image qui est renvoyée de cette soi-disant corps et sexualité parfaite, dont la réalité, les cabinets de sexologues sont là pour l'attester, que c'est la bérésina. Dans la réalité, c'est souvent une bérésina sexuelle dans nombre de couples soi-disant libérés. Et que ce que disent les sexologues aujourd'hui, c'est que le principal problème des couples, c'est le sens qu'ils donnent à leur sexualité. Si jamais ça n'est qu'un jeu, tôt ou tard, d'abord on ne se suffit jamais du jeu, on en veut toujours un supplémentaire, et tôt ou tard, ça ne suffit pas. Et donc, deuxième point également, insister. dans la sexualité conjugale chrétienne, il y a deux écueils et deux chemins de conversion. D'abord, effectivement, une sexualité qui va être débridée et qui, à un moment, c'est le plus vite possible à faire bonga-bonga, parce que, je veux dire, on a une énergie et il faut convertir cette énergie sexuelle et travailler à sa purification, être dans l'écoute, dans le don et dans la délicatesse et dans l'ajustement. Et c'est tout un travail long. Mais le travail en conversion, il est aussi de l'autre côté. Combien n'arrivent pas à se donner ? Et combien même à un moment vont spiritualiser en disant « Mais non, je suis au-delà de tout ça. » Non, tu n'es pas au-delà de tout ça. Tu es marié. Ta vocation, Jésus l'a dit lui-même, c'est une seule chair. Et donc celui qui dit « Oui, mais bon, je vais lui concéder une seule chair ou la sexualité », celui-là n'est pas dans le dessein de Dieu. L'important, c'est essentiel, nous devons nous donner l'un à l'autre. Et pas une fois tous les 36 du mois. C'est la liturgie propre des époux. Ah, c'est comme si vous disiez, après, bon, écoute, dois-je dire à la messe quand j'ai envie. Donc, c'est notre liturgie propre, c'est notre appel. Et donc, c'est aussi un chemin. Se donner, c'est pas facile. Se donner, c'est pas facile. Ne pas prendre, c'est pas facile non plus. Donc, quand on dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Parce qu'après, il faut le mettre en pratique. Mais c'est l'œuvre d'une vie. Et c'est normal, et c'est plus que normal, que dans la sexualité, on tâtonne, c'est presque le cas de le dire, et que, et maman, on dérape, etc. C'est des choses qui sont bien sûr délicates, et c'est des choses qui ne sont jamais inscrites d'avance pour la vie. C'est pour ça que c'est un long travail. C'est un chemin au long cours. De la même manière, vous n'allez pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse, qu'on ne va pas rajouter du sucre dans du vin pour qu'il soit bon et que c'est un bon millésime. Il faut du temps. Il faut du temps. Mais si ce travail est engagé, alors véritablement, nous rentrons dans la vraie libération sexuelle. Qui n'est pas de se détacher de la sexualité et qui n'est pas non plus d'avoir une sexualité débridée, mais qu'au contraire, au travers de ce travail, de cette prise de conscience du sens de la sexualité, alors à ce moment-là, on peut rentrer dans le don mutuel et que même des vieux époux peuvent se donner l'un à l'autre avec une émotion que le jeune couple marié ne goûtera pas. Parce qu'il sera dans une telle vitalité, etc., qu'il n'aura pas la finesse, la délicatesse d'écoute pour saisir cette émotion, cette intimité intense. Et c'est pour cela que nous sommes à des moments, pour nous-mêmes, mais aussi pour beaucoup d'autres couples, saisis de voir qu'avec l'âge, ce travail de conversion et de purification, on voit que le sexe n'est surtout pas d'abord une question de position, de technique, mais de sens, de don, de conversion, et que là, l'émotion est profondément intense, et l'émotion rejoint, de l'étreinte, rejoint l'émotion spirituelle. C'est pour ça que le Cantique des Cantiques est à la fois un poème à la fois profondément mystique et aussi érotique. Et que dans toute la révélation, l'illustration de la relation intense avec Dieu, c'est la relation époux-épouse. Et que même saint Paul insiste sur cette profonde articulation. Et il parle même que c'est un grand mystère. Et donc la sexualité, c'est un grand mystère. Et c'est un grand mystère, mais pas, on ne fait pas des violons mystiques là. C'est un grand mystère, c'est-à-dire que c'est une expérience à laquelle nous sommes conduits sur un chemin de conversion pour qu'il soit de plus en plus purifié et intense dans l'amour.
Alors pour mener ce travail de conversion, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a dit ce matin sur ces blessures qu'on a vécues. On a donc une blessure dans la transparence aussi entre notre corps et notre âme, donc dans l'unité de notre être. Donc il est bien évident que pour convertir notre sexualité, il ne s'agit pas de se frapper la main en disant « t'as pas été juste ». Hein, ce serait ridicule. Il faut donc bien convertir notre cœur pour que notre corps se convertisse. Donc ajuster nos cœurs pour que nos corps s'ajustent. Donc travailler à cet ajustement, ça se fait par, évidemment, la perception qu'on a de ce que nous vivons. Mais nous, on appelle ça la relecture, l'écho de notre sexualité. Qu'est-ce que notre sexualité porte comme fruit dans notre vie quotidienne ? Parce que si elle est la célébration de notre amour, elle en est aussi la nourriture. Elle nourrit notre corps, notre couple, elle nourrit notre masculinité, notre féminité. Et elle nous donne de l'énergie. Donc si le lendemain ou quelques jours après, on peut relire ensemble notre sexualité, il ne s'agit pas de faire l'analyse. Mais quel est l'écho que tu avais dans ton cœur ? Lisons les fruits de l'esprit. Est-ce que j'étais habitée par une grande paix ? Par une pêche pas possible ? J'avais envie d'embrasser le monde entier. Ou est-ce que j'étais amère, aigrie, blessée, je t'en voulais. Je ne sais pas bien pourquoi, mais je t'en voulais, je ne me suis pas sentie respectée. C'est ce travail de relecture qu'il faut faire et qu'il faut pouvoir se confier mutuellement. Il ne s'agit pas de se juger. On accepte, une fois pour toutes, d'être pécheur et de tâtonner. Et si un enfant pouvait apprendre à marcher sans jamais se faire mal, je pense que ça se saurait. Hein, combien de genoux on a soigné dans les premiers temps des débuts, des premiers pas des enfants. Donc il est inévitable qu'on se prenne un peu des coups et qu'on se fasse un peu mal. Si on n'accepte pas de tâtonner, on n'y arrive pas. Alors acceptons de tâtonner, mais acceptons de relire ensemble. Et puis de pouvoir dire à l'autre, je te remercie, vraiment hier c'était beau, on a vécu un moment magnifique. Et ça m'a nourri toute la journée. Ça, c'est des choses extraordinaires. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, on touche ces moments d'éternité où il y a étreinte des corps, mais étreinte des âmes. Et c'est surtout ça qui est beau. Et c'est ça qui coupe le souffle. C'est quand on arrive à être dans cette unité d'être qui fait que vraiment, enfin, on se dit, nous avons vécu un moment de communion pure. Bien sûr, on peut le vivre dans la sexualité, mais on peut le vivre aussi dans d'autres moments de la vie quotidienne. Et sachons remarquer ces pépites-là et nous accrocher à ces pépites-là. Dans combien de couples on ne regarde que ce qui ne va pas et les fois on s'est engueulé et on ne regarde pas tous ces moments merveilleux. Ce serait moderne de dire, comme disent les jeunes, c'était magique. C'est magique. Bon, bref, les moments où on a senti que vraiment passait l'Esprit Saint dans notre amour et que là, il y avait un moment d'éternité extraordinaire que le Seigneur nous donne de vivre. Donc, en travaillant sur cette conversion du cœur, nous allons nous libérer de l'esclavage de nos pulsions, de l'esclavage de ce qui n'est pas juste en nous, pour que notre langage des corps soit un langage d'amour. Et ça s'apprend un langage. Je crois qu'il y en a une qui est polonaise ici, je ne sais pas combien d'années il faut pour apprendre le français, un certain nombre d'années, pour bien le parler. Donc c'est normal que le langage des corps, il faille un certain nombre d'années pour bien le parler. Et donc, nous allons apprendre à célébrer ensemble cet amour que le Seigneur nous donne. Et j'aime beaucoup cette phrase de saint Paul. Nous aimons beaucoup cette phrase de saint Paul auquel on revient souvent. Le corps du mari ne lui appartient plus, il appartient à la femme. Et le corps de la femme ne lui appartient plus, il appartient au mari. Mari et femme, ne vous refusez pas l'un à l'autre, mais soyez ensemble. Et si vous êtes séparés, que ce soit d'un commun accord, pour un temps court et revenez vite ensemble. Alors bien sûr, c'est pour la prière, donc ça c'est bien. Mais ça veut quand même dire, rappelez-vous, la tentation, ça s'est produit quand Ève était seule, Adam n'était pas là. Donc ne maintenez pas une distance excessive. Demeurez ensemble. Et si vous ne pouvez pas vous unir sexuellement pour des raisons diverses, maladies, fécondité, gestion de la fécondité et tout ça, trouvez d'autres moyens d'exprimer votre tendresse. Mais vivez cette relation du corps. On en a tous besoin. Et c'est quand on est petit enfant, on a besoin de se frotter contre sa maman. Ben, quand on est grand, on a toujours besoin de se frotter, mais c'est plus contre sa maman. Donc voilà. Ayons la simplicité de reconnaître qu'on a besoin aussi d'être câliné, tout simplement. Voilà.
Mais c'est... Je crois que vous saisissez bien que c'est tout un travail d'exigence et de purification qui est une ligne de crête. Et que toute la mesure à laquelle nous invite l'Église dans sa compréhension du sens de la sexualité est un chemin de purification, de libération, mais qui conduit à une relation profondément intense dans l'intimité conjugale. Il est très frappant, j'ai laissé malheureusement dans le bureau le livre pour vous lire la citation. Deux citations de Jean-Paul II et de Benoît XVI, qui insistent chacun sur le fait suivant, c'est que le travail de purification et de conversion de notre sexualité, qui implique un travail de guérison et même de libération, c'est les termes de Benoît XVI, ne vont pas du tout à l'encontre de nos aspirations d'intensité au niveau de notre relation sexuelle. Et le monde entier, tous les canards, les médias le montrent bien, il y a une soif d'intensité de relations et de qualité de relations sexuelles. Ce que disent nos deux papes, c'est que loin d'appauvrir notre relation, au contraire, elle les intensifie. Et la citation pour Benoît XVI, elle conduit vers la béatitude, c'est le terme de Benoît XVI, la béatitude vers laquelle tend tout notre être. Donc ça veut dire que nos papes ne sont pas en train de rajouter du religieux sur, en disant « tiens, c'est un sujet à la mode, on va en profiter, on va en mettre un petit... » Non. Elle est en train de rejoindre l'expérience spirituelle avec l'attente la plus intime de tous les hommes, de toutes les femmes, du sens même de la sexualité. L'aspiration derrière la sexualité, l'attente, une telle attente sexuelle, il y a une telle attente du monde d'amour et d'intensité de la relation et de l'affection. Et derrière ça, c'est une attente de Dieu lui-même. C'est pour ça que nous avons souvent l'habitude de dire que les sex shops ou les sites internet, etc., c'est une des preuves majeures que Dieu est amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes attendent l'amour, mais comme ils ne le connaissent pas, alors ils prennent des dérivatifs. Mais donc, nos papes insistent sur le fait que ce travail de conversion de notre sexualité, c'est pas simplement dire, bon, bah écoutez, on vous autorise la sexualité, mais vous allez payer la facture au milieu. C'est absolument pas ça. Souvent, c'est un peu, vous savez, l'image c'est un peu qui est véhiculée, c'est que l'Église, bon, elle autorise, mais finalement, elle est pleine d'interdits. C'est le contraire. C'est le chemin étroit, c'est le chemin exigeant pour justement conduire sur le chemin de dilatation que nous attendons tous. Comme il était dit, nous insistons sur cette question de la sexualité, comme nous avons dit ce matin par rapport à Adam et Ève, nous attendons tous de crier intensément de joie auprès de notre conjoint. C'est ce que nous attendons. Alors on en est conscient ou pas conscient, on le refuse ou on l'accepte, mais c'est une loi. C'est une loi anthropologique. Et l'Église, dans sa sagesse, dans sa révélation, nous dit « Oui, ce chemin est possible et ça peut se concrétiser pour vous. Mais soyez bien conscients que ce péché, le péché a tellement perturbé l'expérience sexuelle que si vous n'y faites pas attention, vous allez dans le mur. Mais si vous respectez le sens de la révélation, la conversion de la chair, l'accueil de l'Esprit Saint, alors vous allez vraiment être sur des chemins de qualité où que après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de votre conjoint, non seulement vous n'êtes pas lassé par sa tendresse et par son don et par son amour, mais au contraire, vous en êtes de plus en plus enrichi. Quoi de plus beau que de pouvoir promettre dans la foi à des jeunes fiancés le jour de votre nuit de noces, peut-être que ça va être, et on espère pour vous que ça va être très beau et intense, mais vous n'avez rien vu, parce que dans 50 ans, ça n'aura rien à voir en termes d'intensité et de qualité. C'est ce chemin-là que Dieu veut pour nous. Alors après, on prend, on ne prend pas. On monte dans les wagons, on ne monte pas dans les wagons. C'est une question après de liberté qui nous est donnée. Est-ce qu'on saisit la grâce ou pas? Mais en tout cas, c'est le cadeau que Dieu veut nous faire. Et c'est quelque chose qui est essentiel. Ne croyons pas que la sexualité est accessoire. Beaucoup de couples chrétiens, on a été surpris d'observer cela, ont arrêté le combat de la sexualité. C'est-à-dire arrêté en disant, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, on arrête. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. parce qu'on n'arrive pas à se donner, parce qu'on n'arrive pas à recevoir, parce qu'à un moment, l'autre va trop loin, l'autre en veut trop, l'autre n'arrive pas à se donner. Mais c'est essentiel, ce n'est pas accessoire. C'est Jésus lui-même qui le dit. Une seule chair, c'est la caractéristique de notre... c'est le cœur même, notre spécificité. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas s'atteler à ce travail-là.
Je pense qu'il va falloir qu'on arrête, même si on peut parler longtemps de ce sujet qui est magnifique. On va vous proposer deux pistes donc, pour échanger entre vous. La première piste va donc toucher à quitter pour s'attacher. Ai-je bien quitté mon père, ma mère, ma famille ? Pour le savoir, celui qui, a priori, est plus objectif, c'est votre conjoint. C'est difficile à entendre, mais on ne se rend pas compte quand on est dans notre famille, si on est lié encore ou qu'on ne l'est pas. Notre conjoint, lui, il le sait tout de suite. Si nous avons décidé de nous attacher à l'autre, c'est que nous acceptons de lui faire confiance. Alors, que ce ne soit pas l'occasion de balancer toutes les poubelles qui datent de je ne sais quand.
Mais tout est une question de mesure.
Si vous pouviez simplement écouter le conjoint vous dire « J'aimerais que tu progresses sur tel point parce que moi, ça me fait souffrir quand ?» Juste ça. Vous débattez pas, mais vous écoutez. Et pour que chacun puisse prier là-dessus, et c'est réciproque, en général, chacun a un travail à faire, ça peut être sur un sujet différent, enfin, par rapport aux parents, par rapport aux frères, par rapport à la tante, au grand-père, à la propriété familiale, je sais pas quoi, à l'habitude de Noël qu'on fait toujours comme ci ou comme ça. Il y a plein de façons d'avoir de pas quitter son père et sa mère, et on a le droit l'un et l'autre de dire, voilà, ça me heurte, j'aimerais que tu progresses là-dessus. Donc essayez de se l'exprimer dans ce sens-là.
Un petit témoignage. Hein? Un petit témoignage. Sur cet aspect-là, nous avons, ça a été libératoire pour nous, le jour où on s'est dit, eh bien, dans ce domaine-là, par rapport à nos familles, on va rentrer dans l'obéissance réciproque. Ça veut dire que, Maud, je me rangerai à ton discernement sur la question de ma famille, parce que je ne suis pas objectif. Et réciproquement, bien sûr, il faut que ce soit réciproque.
Il vaut mieux.
Enfin bon, j'ai essayé de négocier que ça soit simplement, mais moi ça n'a pas marché. Bon. Mais ça a été, de ce jour-là, ça a été libératoire. Parce que finalement, l'autre a un droit de veto, quelque part. Je dis, écoute, voilà, moi je pense que j'ai pas de problème. Enfin, je crois que je suis libre avec maman. Non, t'es pas libre avec ta maman. Non, t'es pas libre. Et pour tel point. J'ai pas le même discernement que toi, mais j'ai décidé que c'est toi qui as autorité là-dessus. Donc on va bien sûr discuter. C'est pas que je suis pieds et poings liés.
Non, il n'y a pas de risque.
C'est pas vraiment le genre dans la maison. Mais voilà. Mais par contre, voilà, c'est et bien ce jour-là, waouh, c'est beaucoup plus calme. Hein. Le sujet est beaucoup plus calme parce que l'autre se sent vraiment écouté et respecté. Et qu'effectivement, Maud est forcément beaucoup plus objective par rapport à ma famille, et puis moi je suis très objectif par rapport à la sienne.
Mais comme on sait aussi qu'on a le droit de dire à l'autre ce qui nous gêne, du coup on est plus juste aussi dans notre attitude. Et on arrête de revendiquer avec notre fanion, quoi. Hein, libérer les opprimés par la famille adverse. Donc voilà, c'est tout un travail. Maintenant, chaque situation est tellement particulière. Si vous vous en sortez pas sur ces sujets-là, surtout parlez-en à un accompagnateur parce que c'est quand même pas simple. Le deuxième point sur lequel vous allez pouvoir échanger, c'est prendre le temps de relire votre sexualité et de mettre des mots. Alors, sous le terme sexualité, il n'y a pas que l'acte sexuel, hein, c'est, disons, votre tendresse conjugale. Vous exprimez les choses qui vous importent, les choses qui vous parlent, les choses qui vous heurtent, juste pour pouvoir vous le confier. Il ne s'agit pas, encore une fois, de revendiquer, mais de dire, voilà, par exemple, moi, je me suis rendu compte au bout de 10 ans que quand j'étais stressée et que je commençais à péter un plomb avec les enfants, la meilleure façon de me calmer, c'était qu'ils ne me disent rien, ils me prennent dans les bras et tout va mieux 5 minutes après. S'ils commencent à me dire quelque chose, je grimpe au cocotier, c'est fini. Donc, il a fallu un certain temps pour que je décode ça. Maintenant, je sais que j'ai besoin de ça, il le sait, et on a trouvé notre façon de désamorcer le truc qui part en vrille. Bon, ça, c'est mon fonctionnement. Chacun en a un. Et sur toutes les questions de tendresse et tout ça, il faut se le dire, il faut relire notre sexualité. Qu'est-ce qui a été beau, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on souhaiterait vivre. Mais pas comme des reproches. Pour mettre ça devant le Seigneur en disant encore une fois, voilà Seigneur, là ça va, tu nous as sauvés, on voit qu'on avance. Là, tu ne nous as pas encore sauvés, tu n'es pas passé sur notre blessure et on veut te la donner et on veut t'accueillir là. Et on va prier l'un pour l'autre pour que là, on soit plus dans l'harmonie, plus dans la beauté, plus dans la joie, plus dans l'action de grâce. Voilà. Donc, deux pistes. Évidemment, vous n'aurez sans doute pas le temps de tout faire d'ici la rencontre avec votre accompagnateur, mais on va faire confiance à l'Esprit-Saint, essayer d'aller à l'essentiel. Très difficile pour les femmes, je sais. Je suis la première concernée. Il nous faut un certain temps avant d'arriver au sujet. On tourne, on dit des tas de choses. On y arrive quand même.
Les femmes sont handicapées sur la hiérarchie. Les hommes sont handicapés sur le fait de parler. Donc chacun a son handicap en la matière. Pour finir sur la question de la sexualité, interrogez-vous simplement sur la question de Saint Paul. Est-ce que vraiment dans notre couple, dans notre vie conjugale, est-ce qu'on applique l'invitation de Saint Paul ? Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Est-ce que ce travail, est-ce que nous avons une haute idée de la sexualité comme étant au cœur du projet et de l'expérience conjugale, même de l'appel conjugal de la part de Dieu ? Mais sommes-nous conscients que nous avons aussi un énorme travail de conversion à faire, et l'un et l'autre, sur cette question. Écoute Seigneur Jésus, nous te confions tout ce que nous avons évoqué pendant cette heure, autour de ta parole, autour de ces deux questions si importantes. Nous venons, Seigneur, te prier pour que maintenant tu viennes toi-même faire le tri entre tout ce qui a été évoqué, partagé, afin qu'à chacun tu donnes ta parole de vérité. Tu viennes vraiment transpercer nos cœurs, rejoindre nos cœurs.
Nous allons prendre le temps de nous mettre devant le corps de Jésus. Il a donné pour nous. En contemplant ce corps, nous pouvons lui demander de guérir nos corps. Nous pouvons aussi lui demander la grâce de pardonner à notre conjoint s'il nous a blessés sur ces sujets si intimes. De rentrer dans la grâce de la parole et du pardon qui libère. De demander à Jésus qui a tout donné sa vie jusqu'à la dernière goutte, de nous aider à donner notre vie à l'autre. Dans ce corps que vous contemplez, que nous contemplons, que nous allons contempler, cherchons, puisons la force nécessaire pour nous aimer jusque dans nos corps.